Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Libre Entreprise, le réseau d'entreprises du logiciel libre qui partage les mêmes valeurs et modes de fonctionnement basés sur la démocratie d'entreprise, la transparence et la compétence. C'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, sur le thème Le design libre, comment il change notre rapport aux objets à travers l'expérience de l'association grenobloise Entropie. Et aussi la chronique « Partager est bon » de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, sous le thème « Les logiciels diffusés doit-il être entièrement libre ?» Logiciels libres et matériels. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour.
Cause commune, la voie des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'April est april.org, april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes le 20 avril 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Isa.
Nous vous souhaitons une excellente écoute. Nous allons commencer par la chronique « Pépite libre » de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Textes, images, vidéos ou bases de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Chaque mois, Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique « Pépite libre » de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, et qui aujourd'hui nous parlera de design libre et de comment il change notre rapport aux objets à travers l'expérience de l'association grenobloise Entropie. Je laisse la parole à Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous, bonjour à toutes. Entropie est une association grenobloise fondée en 2008 par Christophe André et Gabriel Boulanger autour du design libre. Elle propose un accompagnement pour la conception et la réalisation d'objets. Il peut s'agir d'objets du quotidien, tels que des tables, des chaises ou d'autres mobiliers, une remorque à vélo, des outils de jardinage ou une ruche pour un apiculteur. Mais aussi d'objets plus techniques, comme Ulog, un four solaire qui atteint une température de 110 degrés, ou encore une mini-éolienne dont les pales sont découpées dans des bouteilles en plastique usagées. Chaque réalisation de l'association Entropie s'accompagne de l'édition de notices pédagogiques permettant à chacun de reconstruire, de modifier et même de commercialiser l'objet. Ces notices sont vues par Entropie comme le code source de l'objet. Elles sont disponibles en téléchargement sous licence libre sur le site web de l'association. Au cours d'une riche conférence que l'on peut également retrouver en ligne, Christophe André détaille le contexte et les objectifs de l'association. Il se réfère explicitement au logiciel libre. C'est une volonté de pouvoir se réapproprier nos propres objets dans la dynamique du libre, c'est-à-dire la libre circulation des idées. Les valeurs qui l'animent rejoignent très clairement celles défendues par l'April. Tous les objets que nous développons font l'objet d'une documentation qui est diffusée librement pour que d'autres personnes puissent se l'approprier. Nous faisons le pari de créer d'autres modes de production basés sur l'entraide, la collaboration et la libre circulation des connaissances. Christophe poursuit. Un des points qui me dérange le plus dans le rapport que l'on entretient avec les objets, c'est l'abstraction quasi totale qui le caractérise. Par abstraction, j'entends le fait que la plupart du temps, on ne sait pas par qui, dans quelles conditions, avec quel type de matériaux et à quel endroit sont réalisés les objets, ni comment ils fonctionnent précisément. À travers le design libre, le citoyen devient alors un prosommateur. c'est-à-dire un individu qui prend part à ce qu'il va consommer. En reprenant le contrôle, l'utilisateur sera également plus à même de contrecarrer l'obsolescence programmée des objets. Comme pour le logiciel libre, il ne s'agit donc pas simplement de développer des objets d'une manière plus efficace, mais bien de remettre en question les relations que nous entretenons avec nos semblables et avec notre environnement. Le design libre interroge notre rapport au travail, à la technique, à la culture et à l'économie. Bref, notre vision de la société. Chacun peut donc télécharger les notices, les réutiliser, les adapter et les partager à son tour selon les termes de la licence Art Libre. Entropie propose aussi des ateliers permettant d'être accompagné dans toutes les étapes de la conception à la réalisation de l'objet. Elle organise des rencontres et des formations autour du bricolage. Elle propage le message du design libre dans les collèges, les lycées, des écoles de design ou des centres d'art, ou encore des rencontres de Fab Lab comme l'Open Bidouille Camp. On dit souvent que le logiciel libre est une utopie qui a réussi. Entropie se revendique de cette utopie et lui donne corps d'une manière éminemment concrète. C'est original, c'est visionnaire, c'est utile et délicieusement subversif.
Merci beaucoup Jean-Christophe, super intéressant le travail qui fait cette association. Moi-même, je m'interroge à chaque fois sur les objets, je me dis qu'on se pose pas jamais assez de questions sur l'origine, sur qui les fabrique, sur comment sont faites. Donc vraiment très bienvenue cette chronique. Je te remercie encore, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt avec la prochaine pépite.
Bonne journée également, bonne fin d'émission et au mois prochain.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Nous allons écouter Les Douaniers d'A Wiseman et Ministère Industrie Remix par DJ Rockin Daft Doof and his Digital Music Motor. À l'origine de ce morceau, le message anti-téléchargement prononcé par le journaliste Ariel Wiseman en fin 2004, que l'artiste s'amuse bien à remixer. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix de possible.
Cause Commune.
Vous venez de tenter de télécharger un fichier musical protégé.
Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là.
En faisant, vous faites courir des dangers non seulement aux artistes et à l'industrie musicale, mais aussi à vous-même. Vous pouvez facilement être identifié et poursuivi devant la justice par les ayants droit.
Il faudra encore un certain nombre d'années avant de pouvoir passer la tête haute les bagages farcis d'appareils photographiques allemands, de tabac belge, de fromage hollandais, voire de
fichiers musicaux.
Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là.
Vous risquez aussi d'attraper un virus informatique sans risque.
Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là.
The subliminal messages.
Il faudra encore un certain nombre d'années avant de pouvoir
être poursuivi devant la justice par industrie musicale.
The subliminal messages.
Alors, pourquoi continuer à vous exposer?
Cependant, le mouvement est donné et peu à peu le volume va augmenter. Les douaniers sont toujours là. 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 D'ores et déjà, on peut rêver d'aller un jour louer pour les vacances quelques pavillons de douane désaffectés.
Nous venons d'écouter Les Douaniers d'A Wiseman et Ministère Industrie Remix par DJ Rocking Doug Doof and his Digital Music Motor sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY SA 2.0. Cette licence permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Dans les cas où vous créez du matériel utilisant cette musique, vous devez diffuser votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur Libre Entreprise, un réseau d'entreprises du logiciel libre à taille humaine, partageant toutes les mêmes valeurs et modes de fonctionnement, basés sur la démocratie d'entreprise, la transparence et la compétence. Il s'agit d'une rediffusion de notre sujet long diffusé le 13 octobre 2021. Mon collègue Frédéric Couchet y échangeait avec Jean Couteau de Code Lutin et Catherine Haynes de Nereide. Je vous laisse en leur compagnie, on se retrouve juste après, dans une cinquantaine de minutes, en direct sur Cause Commune, la voie des possibles.
Alors nous allons poursuivre notre sujet principal qui va porter sur le réseau Libre Entreprise qui regroupe des entreprises du logiciel libre qui partagent un certain nombre de valeurs et de méthodes de fonctionnement. Donc avec nous au téléphone, deux invités, Catherine Haynes. Alors vérifions qu'elle est bien présente. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
Jean Couteau. Jean, est-ce que tu es avec nous ?
Bonjour, je suis bien là.
Bon, très bien. Alors, comme vous êtes tous les deux au téléphone, n'hésitez pas, quand vous voulez intervenir, à le dire, hein, parce que comme je ne vous vois pas, je ne peux pas répartir la parole de façon habituelle. Donc, nous allons parler de Libre Entreprise. On en a déjà parlé dans une précédente émission, mais là, on va aborder avec deux nouvelles entreprises, donc Nereide et Code Lutin. Donc, déjà, une première question, toute simple, une présentation individuelle. Qui êtes-vous ? Et puis, quelques mots de présentation de vos deux structures d'un point de vue métier logiciel libre. Donc, on va commencer par Catherine Haynes.
C'est gentil. Je bosse en fait chez Nereide depuis sa création. Donc on a créé Nereide en 2004 et je m'occupe de tout ce qui touche à la gestion, donc toute la paperasserie, que ce soit comptable, administrative, fiscale. Voilà. Après, pour ce qui est de Nereide, on est une équipe de 12 salariés. On partage évidemment tous des valeurs très fortes qui sont liées au logiciel libre, c'est-à-dire la transparence, le partage. Et même notre fonctionnement qui s'apparaît un peu à la méthode agile. Notre métier, c'est de bâtir des solutions de gestion pour les entreprises en intégrant le RP, donc Apache Office. Et bien sûr, notre objectif, c'est d'apporter à ces sociétés de la facilité, une simplicité d'usage, et tout en restant efficace, performant et leur permettant de développer leur activité métier. Voilà.
D'accord, merci. Et de ton côté, Jean Couteau ?
Oui, alors donc moi, ça fait 12 ans que je suis chez Code Lutin, je m'occupe du commercial et je fais du dev, du développement logiciel aussi à côté. Et du côté de Code Lutin, nous, on est une entreprise d'experts en développement Java et JavaScript, donc on fait du développement sur mesure pour nos clients sur une base de briques logiciel libre. Donc on travaille avec différents secteurs, la recherche, la banque, des télévisions connectées, des ministères. Et en fait, on incite nos clients à ce que tout ce qu'on développe soit publié sous licence libre. Donc ça fonctionne plutôt pas mal avec les laboratoires de recherche. Avec nos clients privés ou les ministères, c'est assez variable. Donc il y en a qui jouent le jeu, d'autres beaucoup moins. Mais on milite.
D'accord. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans le cours de la discussion. Alors, on va parler du réseau Libre Entreprise. Alors déjà, question introductive, après on détaillera évidemment. Comment vous présentez le réseau Libre Entreprise quand il vous arrive d'en parler peut-être autour de vous ? Et quels sont les grands principes partagés au sein de ce réseau et qu'on détaillera par la suite ? Qui veut commencer ?
Alors, je vais commencer, c'est Jean. Alors en général, quand on nous pose la question et qu'on parle du réseau Libre Entreprise, on le présente comme des entreprises, des sociétés de services en logiciel libre qui ont décidé de se regrouper parce qu'elles partagent en fait un mode de fonctionnement qui est similaire. Catherine en a parlé rapidement tout à l'heure, qui est le mode de fonctionnement des communautés du logiciel libre, donc qui est étendu à l'intérieur des structures. Donc ça se rapproche de l'agilité et c'est surtout de la démocratie d'entreprise. Et donc de là découle tout un lot de valeurs et qu'on a regroupé dans une charte qui est présente sur notre site libre-entreprise.org.
D'accord. Catherine, est-ce que tu veux compléter ?
Non, effectivement, la démocratie d'entreprise est vraiment ce qui nous rapproche et qui se résume à un homme, une voix déjà. Donc, c'est effectivement ce qui est important pour nous tous.
D'accord. Je vais préciser que l'agilité, on a déjà parlé dans l'émission Libre à vous avec Alexis Monville. Donc, vous retrouverez les podcasts sur causecommune.fm et sur april.org. Avant de rentrer en détail un petit peu dans cette charte, il y a combien d'entreprises membres actuellement et depuis quand le réseau existe-t-il ?
Alors, on regroupe une quinzaine d'entreprises. De mémoire, on a essayé de réfléchir avec Jean. On pense que c'était 2002. La création du réseau.
Je confirme. Enfin, j'ai vérifié avant, mais l'annonce par notamment Emmanuel Ravière d'Easter Eggs date de 2002, oui, effectivement. Et donc, on va préciser que c'est présent en France et en Belgique. C'est-à-dire principalement en France, mais aussi il y a des entreprises en Belgique, c'est ça ?
Exactement.
D'accord. Donc, pour l'instant, pas de réseau, pas d'organisation en dehors. Il n'y avait pas à un moment une entreprise au Québec ou quelque chose comme ça ?
Canada, oui.
Canada ?
Exactement.
Oui. D'accord. Ok, donc une quinzaine d'entreprises en France et en Belgique. Et donc, la base, c'est une charte. Alors évidemment, vous le retrouvez sur le site du réseau. Ben, on va le citer, hein, libre-entreprise.org. Et cette charte, donc, le premier mot, enfin l'un des premiers mots en tout cas qui est sorti, c'est le mot de démocratie. Une personne, une voix. Donc on va peut-être commencer par cette fameuse notion de prise de décision. Donc prise de décision, c'est par consensus de l'ensemble des personnes participantes ou à défaut le principe un homme, une voix. Comment ça fonctionne concrètement, ce principe de prise de décision ?
Alors, le principe de, enfin, le fonctionnement des prises de décision chez nous, en tout cas chez Code Lutin, ça part tout le temps d'une discussion entre nous. Il faut savoir que nous, on a des points une fois par semaine où on est en équipe tous ensemble. Sur ces réunions, tout le monde propose les sujets qu'il a envie d'aborder. Donc, ça peut être des sujets techniques. Ça peut être des sujets sur la gestion d'entreprise, il y a du commercial, enfin voilà, on aborde un peu tous les sujets et tout le monde peut s'exprimer, prendre la parole pour donner son avis. Et ensuite, en fonction des sujets, soit on a un consensus, soit on a besoin de passer au vote sur des sujets, des fois... Un peu plus clivant, on a besoin de voter. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est un homme, une voix, une personne, une voix, pour prendre nos décisions. Et alors, en fonction des sujets, si c'est vraiment un sujet qui a trait au juridique de l'entreprise, là, on a les critères de vote d'Assemblée générale qui sont en vigueur, donc souvent c'est aux deux tiers des voix, sinon c'est à la majorité.
D'accord.
Je sais que chez Nérid, il y a un fonctionnement qui est un petit peu différent.
Alors justement, Catherine, c'est quoi le fonctionnement ? Parce que là, c'est le fonctionnement donc de Code Lutin, et donc quel est le fonctionnement côté de Nérid ?
Alors, on est d'accord que c'est un fonctionnement qu'on utilise actuellement, mais en 15 ans, évidemment, on a beaucoup évolué par les personnes qui composent la société, évidemment. Donc là, je parle de ce que l'on vit en ce moment. Donc on a un rythme de réunion tous les 15 jours, un après-midi. Pareil, nos réunions ont aussi beaucoup évolué. On a changé pas mal de choses. Mais en termes de décision, ce qu'on a évolué maintenant, c'est qu'on est plutôt vers en fait le consentement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas forcément sur la solution idéale que la majorité aurait souhaité. Mais on essaye de trouver un équilibre où finalement ça ne va pas contenter tout le monde, mais personne n'aura d'opposition. Et c'est plutôt vers ça que l'on est en train de fonctionner pour l'instant.
Donc c'est une forme de...
C'est un système...
Non, vas-y, continue.
Non, c'est un système de consentement plutôt de qu'un vote par un pourcentage ou autre.
Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait une opposition forte qui soient exprimées. C'est un petit peu ça, cette idée, c'est ça?
Tout à fait. On est attentif à ce qu'il n'y a pas d'opposition, mais ça veut dire qu'effectivement, la solution proposée n'est pas forcément celle que la majorité aurait souhaitée, mais la proposition finalement qui va être adoptée, ou l'attitude, ou l'étape qu'on va franchir, ce sera celle où personne n'aura d'opposition.
D'accord. Alors, on va peut-être préciser aussi le rôle, parce qu'on va peut-être plus d'ailleurs commencer par ça, j'aurais peut-être pu commencer par ça, le rôle de cette prise de décision dans le réseau Libre Entreprise, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, le point fondamental, c'est que c'est les personnes qui composent la société qui la gouvernent. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont impliquées dans ce prise de décision et que l'ensemble de ces personnes peuvent participer à cette prise de décision, alors que dans des sociétés, on va dire, autres, souvent la décision dépend ou de la responsable, ou de la direction, enfin voilà. Donc c'est cette notion de vraiment de personnes qui composent la société, qui gouvernent cette société, c'est bien ça?
Exactement.
Oui.
D'accord. Alors il y a, après je vous poserai aussi la question sur la prise de décision au sein du réseau, parce que là c'est au sein de deux structures, donc je ne sais pas s'il y a aussi des prises de décision au sein du réseau, mais ça sera ma question après. Mais déjà il y a une décision qui doit être prise assez régulièrement dans les entreprises, c'est le choix de la personne représentante légale chaque année. C'est un peu particulier parce qu'il y a ça fait des responsabilités différentes, on va dire. Donc comment ça marche chez vous ce choix de la représentante légale chaque année? Est-ce que c'est une personne? Est-ce qu'il y a un vote? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Est-ce que c'est collégial? On va commencer par Code Lutin, Jean Couteau.
Ouais, alors chez nous, on fait une élection tous les ans. Où on choisit parmi les personnes, les salariés qui le décident, qui décident de se présenter, en fait, lequel va nous représenter. Donc c'est ma collègue Cécilia qui le représente actuellement. Et en fait, chez nous, le représentant légal, pour nous, c'est entre guillemets juste un traitement. Il a aucune responsabilité, comme on disait tout à l'heure. Les décisions, elles sont prises tous ensemble. Le représentant légal peut être démis de ses fonctions entre guillemets par l'assemblée des salariés. Et à part une signature et éventuellement en cas de litiges très importants où il y a des responsabilités pénales qui pourraient être en jeu, il prend pas les décisions, il a pas de pouvoir hiérarchique sur les autres puisqu'il peut être démis par l'ensemble des salariés. Et donc c'est pour nous, c'est juste quelqu'un qui va poser sa signature.
D'accord. Et côté Néréide, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent?
Alors, c'est très proche, sachant que depuis quelques années, donc on fonctionne en fait avec un binôme, donc une co-gérance qui est présente pour 2 ans. Et c'est 2 ans décents, c'est-à-dire que tous les ans, il y en a un qui finit son mandat de 2 ans et une autre personne démarre. Ce qui fait qu'il y a toujours une personne qui, on va dire, a déjà fait 1 an qui accompagne celui qui démarre. Mais au niveau responsabilité, il n'y a effectivement aucun enjeu particulier. C'est vraiment une signature sur qui entérine une décision d'équipe.
D'accord. Alors, dans la partie démocratie, au-delà de la prise de décision, il y a un point donc, qui est dans votre charte, si je me souviens bien, en tout cas dans l'organisation de la plupart de vos sociétés, c'est que le capital doit être détenu par les personnes. Donc, est-ce que c'est le cas dans vos structures et comment ça fonctionne concrètement, en fait, que le capital soit détenu par les personnes, donc les personnes, a priori, les personnes salariées de l'entreprise. Catherine.
Exactement.
Ah ben Jean, alors vas-y Jean.
Ah bah vas-y Catherine.
Ok. Effectivement, ça fait partie des choses qui font partie aussi du contrat de travail, de préciser qu'on souhaite que la personne, si elle adhère à nos valeurs au bout d'une année de présence en tant que salarié, la personne intègre donc la société en prenant une part. Donc ce qui fait qu'actuellement, nous avons un nombre de parts qui correspond au nombre de salariés, puisque tous les salariés ont plus d'un an de boîte.
D'accord. Et côté Code Lutin poursuis si tu veux.
Non, mais c'est quand la personne part, et bien évidemment,
elle rend ses parts. D'accord.
Voilà.
Enfin, elle rend, oui. D'accord. Et côté Code Lutin, Jean?
Alors, bah, chez nous, le fonctionnement est similaire, en fait. Donc, nous, on est 20 actuellement, mais on n'est que 18 à avoir des parts, puisque les deux derniers arrivés n'ont pas encore un an d'ancienneté. Voilà, mais on est exactement sur le même principe. Alors, chez nous, c'est 50 parts, et pas une, mais parce qu'on a des structures juridiques qui sont un peu différentes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais du coup, on est exactement sur le même principe, et quand la personne part, elle revend ses parts. Donc ça n'a pas toujours été le cas chez nous, chez Code Lutin, mais on a réussi au fil du temps à revenir à ce qu'on souhaitait. Donc tout le monde a un nombre de parts en plus qui correspond à ce qui est un peu différent par rapport à Nerid. Nous, ça correspond au temps de travail, ce qui fait qu'on a 50 parts pour un temps plein. Si on a 80%, on a 40 parts, etc. Donc on régule comme ça.
D'accord. Ok. Alors, il est marqué, je crois, sur le site de Libre Entreprise, la notion de taille humaine. Est-ce que vous savez à peu près quelle est la moyenne, ou en tout cas, combien de personnes salariées sont dans les entreprises du réseau? Est-ce que c'est une dizaine, une vingtaine, une centaine? Et vous-même, d'ailleurs, vous êtes combien dans chacune de vos structures?
Ah, donc, alors, chez Code Lutin, on est 20. Mérid, tu as dit tout à l'heure 12, je crois. Oui, c'est ça.
Oui.
Et je pense qu'on doit pas, on n'est pas au-dessus de 20. Dans toutes les structures de libre entreprise, on est entre 1 et 20.
D'accord. Alors, je suppose, voilà. Donc, je suppose que ça fait partie. C'est peut-être une question d'ailleurs ultérieurement sur quand on parlera de l'arrivée potentielle de nouvelles entreprises. Est-ce que cette taille humaine relativement réduite fait partie quelque part pas de la charte, mais en tout cas du mode d'organisation de libre entreprise. Mais avant ça, j'aurais parlé un petit peu du recrutement, parce qu'il y a aussi des spécificités dans le réseau au niveau du recrutement. Alors, j'ai une première question. Est-ce que le mode de fonctionnement très spécifique du réseau libre entreprise est une motivation pour le recrutement de personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent, non pas avant tout pour travailler dans le logiciel libre, mais pour travailler dans le logiciel libre et travailler dans le réseau libre entreprise, en tout cas dans une réseau du libre entreprise? Est-ce que vous avez ce genre de motivation?
Alors, c'est pas souvent les gens qui nous contactent, en tout cas nous, Code Lutin, pour notre mode de fonctionnement, ils n'ont pas forcément entendu parler de libre entreprise avant.
D'accord.
Parce qu'on communique aussi sur notre mode de fonctionnement, on a donné des conférences là-dessus, et notamment à Nantes où on est situé, on échange dans le réseau des développeurs, et souvent les gens viennent pour notre mode de fonctionnement, effectivement, enfin souvent, on a des personnes qui viennent pour ça, mais ils connaissent pas forcément libre entreprise avant, donc c'est à ce moment-là qu'on va leur expliquer plus dans le détail, voilà, tout ce que ça implique, etc., mais ils viennent pour le mode de fonctionnement, oui.
D'accord. Et côté Nerid, à Tours, hein, si je me souviens bien, vous êtes...
Oui, c'est ça, à Tours, je dirais la même chose, dans le sens où les gens viennent parce qu'ils ont, soit parce que l'annonce était un peu différente des autres et leur a tapé dans l'œil, ils ont été voir le site, mais c'est pas par le prisme de libre entreprise qu'ils vont venir. Par contre, clairement, quand va y avoir la phase de recrutement, on va leur faire découvrir, on va parler de libre entreprise, on va parler de l'achat, puisque ça fait partie des choses qu'ils auront à accepter et à signer s'ils souhaitent venir participer à l'entreprise.
D'accord. Et alors, est-ce que vous avez eu le cas de quelqu'un, d'une personne candidate très compétente et qui, donc, d'un point de vue technique, correspondrait parfaitement au profil de poste recherché, mais qui, finalement, rejoindre une structure avec ce mode de fonctionnement ne correspondait pas, en fait? Vous direz, finalement, bon, voilà, ça ne me correspond pas, prise de décision, etc. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas ou pas du tout?
Je pense que ça va se ressentir de toute façon, parce qu'on a effectivement avec Jean des modes de recrutement différents, mais on se rejoint quand même. Nous, par exemple, en ce moment, toujours pareil, chaque recrutement évolue au fil des années, on est plutôt sur... on accueille les personnes qui souhaitent nous rejoindre avec le grand groupe. On les prévient à l'avance, mais c'est l'ensemble des gens d'équipe qui veulent rencontrer la nouvelle personne sont là, on échange et... Après, le ressenti de l'équipe est important. Donc, soit ça a collé, soit ça n'a pas collé. On aura aussi ressenti, nous, une difficulté à travailler avec cette personne si la réticence se fait sentir. Donc.
D'accord. Et de ton côté, genre, mais ça veut dire qu'en fait, dans ce genre d'organisation, les recrutements, on ne rencontre pas une personne, mais on rencontre toute l'équipe quelque part. Enfin, toutes les personnes qui veulent finalement participer au recrutement de la nouvelle personne qui va vous rejoindre.
Tout à fait.
Et côté Côte du Thym, c'est le même fonctionnement ?
Alors, nous, on ne fait pas un rendez-vous avec tout le monde. En fait, nous, on fait par binôme ou trinôme. Il y a voilà, 2-3 personnes. Donc on a un premier entretien, ensuite on en a un deuxième. Donc souvent c'est jamais les mêmes personnes en fait. Et on arrive et ensuite s'il y a besoin d'un troisième ou quatrième parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rencontrer la personne, on organise 3-4 entretiens s'il y a besoin. Mais en général, on s'est rendu compte qu'avec 2 voire 3 entretiens, on arrivait à balayer un peu toutes les interrogations qu'on aurait pu avoir. Et donc, on arrive à faire des recrutements dont on est plutôt content, même dont on est très content. On a déjà eu, par contre, des cas, effectivement, de personnes qu'on a recrutées et qui se faisaient pas, en fait, à notre mode de fonctionnement.
Après coup, tu veux dire ?
Et qu'ils sont repartis.
C'est-à-dire qu'avec l'expérience, ils se rendaient compte que ça leur correspondait pas, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Ils sont arrivés et une personne s'est décelée pendant la période d'essai. Voilà, il s'est rendu compte que ça le faisait pas. Il était pas à l'aise. Techniquement, très compétent, mais rien à dire. Mais voilà, au niveau humain, ça se passait très bien. Mais par contre, c'était voilà au niveau de la gestion, de la prise de décision, ça collait pas. Bon ben voilà, ça, du coup, il est parti. On a une personne qui a mis un an avant de s'en rendre compte. Mais voilà, c'est un mode de fonctionnement qui convient à certaines personnes et pas à d'autres. Donc voilà, faut juste faire qu'il y ait la bonne compatibilité entre les gens et ensuite ça fonctionne très bien sur le long terme et les gens restent très longtemps dans nos structures.
Alors justement, ça me fait penser à deux questions. Je vais commencer par la première. Alors, je ne sais pas si c'est dans la charte pour toutes les entreprises du réseau, mais je crois que la plupart pratiquent le salaire égal. Donc déjà, est-ce que c'est dans la charte ou pas ? Et est-ce que ça, justement, pourquoi le salaire égal déjà ? Et est-ce que ça peut être un frein, par exemple, pour des recrutements ? Alors déjà, pourquoi le salaire égal, vous pratiquez dans la majeure partie des entreprises du réseau ?
Alors, c'est pas dans la charte.
C'est pas dans la charte, d'accord.
Je la connais pas par cœur sur le bout des doigts, mais pour moi, c'est pas dans la charte. Mais c'est effectivement, pour la totalité ou quasi-totalité des entreprises du réseau, on fonctionne de la même manière. L'idée, c'est vraiment de dire que toutes les personnes qui contribuent à l'entreprise contribuent, en gros, se donnent à 100% de leur capacité et du coup, on n'a pas, on valorise l'effort et pas une ancienneté ou quelque chose d'autre. En fait, tout le monde met 100% de son effort, donc on voit pas pourquoi il y en a qui auraient 110% d'une rémunération et d'autres 90%. Donc, en tout cas chez nous, les gens qui travaillent 80% sont payés à 80%, et ceux qui travaillent 100% sont payés à 100%.
D'accord. Et côté Néride, c'est le même fonctionnement ?
Oui, c'est pareil. C'est vrai que c'est un ensemble de compétences qui fait que la société arrive à fournir un travail, et c'est ensemble qu'on arrive à rentabiliser nos entreprises. Donc Ecode et nous, effectivement, c'est bien la rentabilité de nos entreprises qui fait que à la fin de l'année, on arrive à avoir des reversements de bénéfices. Mais dans le fonctionnement annuel, c'est vraiment les efforts sont partagés.
D'accord. Alors je précise qu'effectivement, ce n'est pas dans la charte. Je viens de vérifier, mais de mémoire.
Oui, je l'avais regardé en diagonale.
D'accord, oui. Mais je pense qu'en fait, toutes les entreprises du réseau que je connais le pratiquent, notamment Easter Eggs, nos amis d'Easter Eggs qui nous hébergent sur Paris. Avant de faire la pause musicale, Pascal, j'avais une dernière question sur cette partie, on va dire, recrutement, personnes salariées. Comment se passe en fait la... Parce que souvent dans les entreprises, il y a des, ce qu'on appelle les, comment ça s'appelle, les points, pas les points annuels, les... Là, j'ai un trou de mémoire. Les entretiens annuels, excusez-moi, d'évaluation, etc. Est-ce que dans ce genre de structure où finalement tout le monde est à égalité, est-ce qu'il y a des évaluations qui sont faites ou pas du tout? Des évaluations individuelles, j'entends. Hein.
Oui. Alors, chez nous, chez Pomipon, on n'appelle pas ça des évaluations individuelles, c'est des entretiens individuels. Donc, c'est Yannick chez nous qui fait passer les entretiens de tout le monde. C'est une manière pour nous aussi de voir les souhaits de formation de chacun, s'il y a besoin et que ça n'a pas été exprimé, parce que il faut voir aussi que des fois, il y a certaines personnes qui ont plus de mal à s'exprimer en grand groupe et qui, des fois, en réunion, vont pas forcément souhaiter aborder certains sujets. En réunion, alors c'est dommage, des fois on pourrait le déplorer, mais l'entretien annuel chez nous permet d'éventuellement aborder ces sujets-là de manière peut-être un peu plus anonyme, parce que des fois c'est des sujets voilà, qui tiennent à cœur et on a du mal à les sortir. Et du coup, ça pourra ressortir ensuite en grand groupe via une clinique qui fait tous les entretiens annuels de tout le monde.
D'accord, donc c'est une façon effectivement de compenser le fait que certaines personnes n'osent pas s'exprimer dans des grands groupes, parce que le problème des grands groupes, c'est que souvent c'est ceux qui parlent le plus qu'on entend le plus en fait quelque part. Et cet entretien, il est fait par la personne qui est gérante ou ça peut être fait par une autre personne?
Alors non, chez nous, alors Yannick était le président avant, c'est toujours lui qui fait, c'est parce qu'il c'était son souhait déjà. C'était quelque chose voilà qui aime bien faire, et c'est chez lui, enfin chez nous, c'est lui qui gère plutôt la RH, donc même les recrutements, souvent c'est lui qui fait les premiers entretiens, donc il a l'habitude de faire ces entretiens là et du coup ça permet aussi d'avoir une continuité dans le temps, même si le responsable ou la responsable légale change. On a une continuité dans le temps de la personne qui fait passer les entretiens, ça permet d'avoir de voir l'évolution d'une année sur l'autre, du ressenti des personnes, parce que c'est important, de l'état d'esprit des gens, etc.
D'accord. Et côté Néride, comment ça se passe? Est-ce que vous avez ce genre de choses ou pas du tout?
Non, on est plutôt pas bon là-dessus. Non pas par un souhait, mais parce qu'on ne sait pas trop comment le mettre en place. Donc on fonctionne un peu différemment. On a un temps tous les 15 jours où ceux qui veulent se rejoignent, ce qu'on appelle le lieu d'expression. Certains n'y vont jamais, certains ont besoin de s'y retrouver pour discuter, évacuer, papoter ou voilà, échanger sur des choses qu'ils ont vécues, plaisantes ou pas. Donc on essaie pour l'instant, on va dire, surtout de travailler là-dessus, mais il n'y a pas de tant d'entretiens particulièrement dédiés.
D'accord. De toute façon, quand il y a des temps tout au long de l'année, il n'y a pas forcément de besoin d'un temps annuel une fois par an. Écoutez, on va continuer cette discussion après la pause musicale, donc je vous invite à rester en ligne, évidemment. Nous allons écouter Dark Creatures par Miyu. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. Thank you.
venons d'écouter Dark Creatures par Miyu, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY. Vous retrouvez les références sur causecommune.fm et sur april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous parlons actuellement du réseau Libre Entreprise avec Jean Couteau de la société Code Lutin et Catherine Hens de la société Néréide. Donc nous allons poursuivre la conversation que vous pouvez rejoindre d'ailleurs sur le salon web dédié à l'émission sur le site Cause Commune, bouton chat. Alors juste avant la pause, nous parlions de recrutement. Maintenant, on va parler un petit peu d'un point, parce que là, quelque part, on parlait un petit peu des entreprises du réseau, à l'intérieur du réseau. Là, on va parler un petit peu du réseau, notamment des relations, et notamment la notion de transparence, qui est un point essentiel dans la charte du réseau. Alors, on va commencer par la transparence interne, donc dans les entreprises, en fait. Parce qu'en fait, si j'ai tout compris, pour que les personnes qui composent la société puissent, entre guillemets, la gérer, la gouverner correctement, puissent prendre des décisions de façon éclairée, eh ben, il faut qu'elles aient accès aux informations. Donc, comment se passe concrètement la transparence en interne dans vos entreprises, Catherine?
Déjà par le partage de tous les documents, etc., tous les fichiers, c'est-à-dire que tout est sur un cloud, hein, et avec un accès ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas de restrictions, quels que soient les éléments, que ce soit des éléments comptables, fiscaux, personnels, bulletins de salaire ou autres. Tout est hiérarchisé et nous avons aussi sur Libre Entreprise un certain nombre de documents qui sont aussi reversés directement. Donc les autres entreprises peuvent très bien avoir accès à nos propositions commerciales, tout un tas d'informations qui leur permettraient aussi d'utiliser ces outils-là.
D'accord, donc pour bien comprendre, déjà en interne, ça veut dire que toutes les personnes salariées de la structure ont accès aux documents, donc qu'ils soient à la fois aux documents techniques, mais aussi aux documents commerciaux, etc. Donc l'ensemble des documents sont accessibles sur un outil interne, quel qu'il soit.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et côté Code Lutin, je suppose que c'est le même fonctionnement, vu que... mais bon.
Exactement. Exactement, on a tous nos documents partagés et tout le monde y a accès, etc. On a aussi on a des listes de diffusion. Catherine n'en a pas parlé, mais je sais qu'ils en ont aussi. Donc des listes de diffusion sur lesquelles on va mettre en copie cachée à chaque fois qu'on envoie une proposition commerciale, qu'on a un échange avec un client, etc. Et du coup, tout le monde sait, même sans suivre l'activité des commerciaux, tout le monde sait quelle proposition commerciale part à quel client ou quel prospect, quels contrats sont gagnés, sans avoir besoin. S'il y a un conflit avec un client X ou Y, ça peut arriver. Voilà, tout le monde est au courant vraiment de toutes ces infos-là, ce qui permet ensuite, effectivement, comme tu le disais, de prendre des décisions éclairées en réunion. Puisqu'on a vraiment toutes les informations.
D'accord. Donc ça, vas-y, Catherine.
Oui, on partage aussi beaucoup par des outils de communication tels que Mattermost, par exemple, où il y a des salons par projet, ce qui fait que toute l'équipe est inscrite dans ces salons et peut suivre, on va dire, les échanges au fil du projet au quotidien, donc tout ce qui s'y passe, ce qui fait qu'il y a vraiment... L'information est à disposition. Après, certaines personnes souhaitent pas forcément suivre toutes les activités parce que trop noyées, parce que ceci, cela. C'est un choix personnel. Mais en tout cas, tout est mis à disposition par différents moyens. Il n'y a pas que l'accès au clé des documents. Il y a aussi le fil quotidien, du quotidien vécu par les projets qui est en accès. Ce qui est important aussi quand on ne fait pas forcément partie de l'équipe projet client.
D'accord. On va juste préciser que Mattermost, c'est un service de discussion instantanée libre avec plein de fonctionnalités. Et pour les personnes qui voient de temps en temps passer des pubs pour Slack, qui est une version privatrice, Mattermost est la version qui est libre. Et donc, on vous encourage évidemment à utiliser et que vous pouvez télécharger et installer sur sur vos propres machines. Donc ça, c'est les transparences internes, donc on a bien compris, accès complet à l'information, qui veut pouvoir accéder à l'information peut, et ensuite ça permet d'avoir une prise de décision éclairée. Ça, c'est interne entreprise, mais comme on l'a vu depuis le début, il y a un réseau libre entreprise donc qui regroupe une quinzaine de structures, donc il y a aussi une transparence intra-réseau quelque part. Alors, quel type d'informations sont partagées entre les membres du réseau et pour quel objectif en fait Jean Couteau de Code Lutin.
Ouais, alors on partage, donc Catherine l'a dit tout à l'heure, on partage en gros nos documents également, donc nous on a nos propositions commerciales et etc. Des contrats qu'on peut faire, ça nous permet et ça nous a permis d'ailleurs par exemple quand on arrive à vouloir développer une offre commerciale dans par exemple de la maintenance informatique pour des clients alors qu'on n'en faisait pas avant, ben on peut aller voir parmi les documents des autres entreprises, on peut les interroger effectivement sur pourquoi ils ont mis ça dans le contrat, etc. Donc ça, c'est les partages de documents. On a, comme on a à l'intérieur de nos entreprises, on a aussi des listes de diffusion dans le réseau qui nous permettent d'échanger, que ce soit sur la gestion de nos structures, que ce soit sur des questions techniques, ça peut arriver. Ça va être parfois sur un prospect, j'ai envie d'aller travailler avec un tel, est-ce que quelqu'un le connaît, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ça peut être ça. Ça peut être sur un client qui nous demande quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne souhaite pas faire et que donc on va le proposer aux autres membres du réseau. Donc ça, c'est le type d'échange qu'on peut avoir. Donc l'objectif, c'est vraiment de... il y en a plusieurs. Il va y avoir de partager notre réseau commercial. Typiquement, on préfère que nos clients... quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, ils aillent voir des entreprises qu'on connaît et qu'on sait compétentes, plutôt que d'aller voir d'autres structures qu'on ne connaît pas et avec qui on aura potentiellement du mal à travailler. Alors que les entreprises du réseau, on sait qu'on n'aura aucun mal à travailler avec elles, puisqu'on les connaît, on sait très bien comment elles fonctionnent. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, comme vous avez pu le voir depuis le début, on a des principes qui sont similaires, mais on les met en œuvre de manière différente. Et donc ça nous permet d'échanger justement sur ces mises en œuvre. Il y a pu y avoir des discussions justement sur des types de réunions. On n'arrive pas à prendre des types de décisions. Voilà, comment vous en sortez chez vous là, je sais qu'il y a différentes entreprises qui se posent pas mal de questions et qui se renseignent comme ça.
D'accord. Catherine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie intra-réseau? Puis j'aurais des questions un peu plus concrètes, enfin encore plus précises.
Oui, pour compléter ce que dit Jean, c'est vrai que l'une des questions sur lesquelles on a échangé lors d'une dernière rencontre entre entreprises du réseau, c'est comment grandir tout en partageant justement la gouvernance, etc., entre les vieux de l'entreprise qui ont une connaissance et puis les plus récents qui sont perdus, etc. Donc c'est vrai que ce sont des moments qui sont intéressants et enrichissants de partager pour se remettre en cause, pour aussi et faire évoluer nos propres modes de fonctionnement.
Alors, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que c'est une des questions que j'allais poser. Alors déjà, outre vos outils informatiques pour échanger, vous avez des rencontres physiques, enfin, quand c'est possible, actuellement c'est un peu plus compliqué, mais vous avez des rencontres physiques. Alors, une de mes questions notamment, c'était justement que tout à l'heure j'ai dit que Libre Entreprise avait été créé en 2002 suite à une annonce d'Emmanuel Raviard. Alors je sais plus s'il était à Easter Eggs ou Entrouvert à l'époque, là j'ai par contre un trou de mémoire. Mais par contre, comme tu viens de te dire, il y a des vieux, ou des vieilles structures, des anciennes structures, enfin, des structures qui servent depuis longtemps, comme Easter Eggs, Entrouvert, et puis il y a des plus jeunes structures. Alors comment se passent justement les relations? Est-ce que toutes les structures, est-ce que les anciennes continuent par exemple à jouer le jeu? Je crois que par exemple que vous aviez une obligation entre guillemets d'envoyer un rapport mensuel d'activité sur le réseau. Voilà, comment ça se passe effectivement à ce niveau-là?
Alors bon, ça... Tout le monde joue pas forcément tout le temps le jeu. On n'a pas forcément des comptes rendus tous les mois de tout le monde, mais on a globalement des comptes rendus plus ou moins réguliers, ce qui nous permet d'avoir des retours. Mais les entreprises, souvent en fait, les entreprises qui sont nouvelles dans le réseau, justement, donnent un souffle et réactivent un peu par rapport aux anciens qui se connaissent bien. Qui se connaissent même très bien, puisque après 10, 15 ans dans le réseau, à se voir régulièrement, on a potentiellement un peu, je ne vais pas dire moins besoin, mais on se connaît un peu plus, entre guillemets, et il y a des choses qui ne sont pas forcément dites. Et voilà, les personnes qui sont plus récentes dans le réseau, les jeunes, les structures qui sont, alors ça peut être à la fois les personnes qui sont arrivées dans des structures plus anciennes ou alors des structures qui sont plus récentes, justement ramènent des discussions et réactivent un peu voilà des débats plus anciens. C'est très intéressant.
Ouais,
c'est très très riche comme échange.
Qui font un petit peu partie de la culture partagée par les anciens, mais qui est pas forcément toujours connue, pas forcément toujours formalisée. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de la prise de décision dans les structures internes. Catherine, est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau du réseau? Est-ce qu'il y a des... Et si oui, comment ça se passe?
Alors, en général, quand on prend des décisions, c'est pas quand on se voit, donc c'est jamais des décisions qui ont été prises par des échanges de mails ou autres. C'est vraiment quand on fait des rencontres, donc ce qu'on appelle les rencontres LE. La dernière, sauf erreur, tu m'arrêteras, Jean, c'est à Namur, non?
Ouais, ça doit être ça.
Hein, donc on avait bloqué 3 jours où toutes les entreprises qui ont pu sont venues avec 1, 2, 3 personnes des entreprises qui souhaitaient se retrouver. On avait un certain nombre de thèmes qu'on a pu aborder autour de ce moment-là, et chaque groupe de travail rapportait après l'ensemble du groupe, et là effectivement des décisions ont pu émerger. Après, c'est toujours compliqué de faire le suivi de ces décisions, donc c'est une entreprise qui prend en charge tel sujet, on va mettre en place cette décision-là. Mais on reste toujours avec énormément de bienveillance sur chacune de nos entreprises, parce qu'on sait bien qu'on est pris aussi par le quotidien, par les projets clients, par tout un tas d'impondérables. Donc voilà, jusqu'à la prochaine rencontre, on essaie de tenir les engagements.
C'est des rencontres annuelles, c'est ça? Ou c'est en fonction des besoins?
Normalement.
Normalement, d'accord. Bon, là, le contexte fait que c'est particulier. Est-ce que d'ailleurs, vous avez prévu peut-être de faire une rencontre par outils de visioconférence, genre Big Blue Bluetooth ou Jitsi, ou vous préférez attendre que la situation sanitaire permette de nouveau des rencontres physiques?
On n'en a pas discuté entre nous.
D'accord.
Je ne sais pas s'il leur sortirait. C'est très difficile, je pense, ce type de réunion par visioconférence. Alors, je sais que nous, sur Nantes, il y a des communautés qui organisent des rencontres en visio en ce moment, avec des ateliers qui arrivent à le faire. Donc, peut-être que c'est faisable, en fait. Mais pour l'instant, on attend.
D'accord. OK. Alors, Catherine vient juste de parler, justement, des clients. Bah, parce qu'en fait, vous êtes quand même des entreprises du logiciel libre, donc vous avez des clients. Ça me fait penser, comment vos organisations et votre appartenance à un réseau libre entreprise est perçue par vos clients et partenaires? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est sur votre plaquette? Et comment ces structures clientes voient ça? Catherine.
Alors, c'est abordé effectivement au début, quand on se présente, quand on explique un petit peu ce que c'est que Néréil et quels sont aussi le lien qu'on a avec les entreprises du réseau qui nous apportent leur expertise dans des domaines sur lesquels nous, on ne maîtrise pas forcément le métier, ce qui est normal, on ne peut pas être bon partout, c'est logique. Donc, ça permet aux clients de savoir qu'effectivement, on a aussi des partenariats qui peuvent être bâtis grâce à Libre Entreprise. Donc, je pense notamment, par exemple, sur des domaines de l'hébergement, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas notre métier, mais pour lequel nous pouvons justement proposer aux clients d'autres partenaires de Libre Entreprise qui peuvent effectuer ce travail-là. Donc, ça a été concrètement le cas, d'ailleurs, au printemps dernier pour l'un de nos clients historiques qui est passé sur un hébergeur du réseau.
D'accord. Et côté Côte du Thym, ça se passe comment avec vos clients ou partenaires, d'ailleurs, hein?
Oui, alors en général, on rentre vraiment pas du tout dans les détails au début de nos échanges avec nos clients. Ils le savent après. Pourquoi ? Parce qu'historiquement, en fait, ça faisait un peu peur, en fait. Il y a 10 ans, quand on parlait de notre mode de fonctionnement, on nous regardait avec des grands yeux et entre guillemets, les gens nous prenaient pas forcément au sérieux. Malheureusement, et maintenant avec les démarches RSE dans beaucoup d'entreprises et grands groupes,
est-ce que tu peux préciser ce que c'est, s'il te plaît?
Bizarrement, ça redevient à la mode. On devient à la mode, et du coup ça les intéresse, du coup on en parle un peu plus.
Je compléterai quand même, Jean, en disant que quand les clients nous font confiance et savent l'expertise qu'on a, ils ont tout à fait confiance quand on leur recommande quelqu'un. Donc vraiment, quand à tisser une relation de confiance, il y a aucun problème pour proposer quelqu'un.
Bien sûr, mais justement, nous, on parle du on aborde ce sujet-là dans un deuxième temps, en fait, quand ils nous ont vu travailler. Voilà. Et effectivement, par contre, une fois qu'on en a parlé, ils comprennent très bien et ils se projettent très bien. Ils sont souvent très contents de travailler avec nous aussi pour ça.
Juste préciser que RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est nos invités d'après qui s'installent, mais ne vous inquiétez pas. Alors, pour revenir sur le réseau, donc on a vu tout à l'heure une quinzaine d'entreprises membres. Bon, je suppose que certaines entreprises sont arrivées, d'autres peut-être parties. Comment ça se passe pour rejoindre le réseau? Il faut candidater, c'est vous qui vous dit, tiens, telle structure nous semble correspondre un petit peu en termes d'organisationnel à ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a un vote qui est fait par les membres du réseau? Comment ça se passe? Catherine ou Jean, je ne sais pas qui veut répondre.
Allez, Jean.
Alors, Jean Couteau.
Ouais. Du coup, ouais, quand c'est une entreprise qui veut faire partie du réseau, donc déjà, elle commence par nous contacter. Donc souvent, ça se fait plutôt de manière physique, d'ailleurs. On rencontre souvent les futurs candidats dans des salons, donc aux rencontres mondiales des logiciels libres, au Paris Open Source Summit. Et ensuite, les gens, du coup, on peut échanger avec eux, on peut présenter vraiment en détail la charte, etc. Et ensuite, c'est un processus, ça met plus ou moins de temps. Et une fois que les gens pensent qu'ils peuvent, qu'ils ont bien compris tout ce que ça impliquait, on a un parrain. Donc, ils demandent à un parrain d'être membre du réseau. Donc, dans un premier temps, ils sont observateurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont partager sur les listes, etc. Ils vont avoir accès à un certain nombre d'informations, mais pas forcément tout. Et ils vont commencer à se contraindre, entre guillemets, à respecter les engagements du réseau, c'est-à-dire partager leur liste de diffusion, faire des comptes rendus, partager leur activité, etc. Et une fois que ils ont bien pris tout ce que ça impliquait, qu'ils sont entre guillemets mûrs pour faire partie du réseau, on a un vote entre tous les membres du réseau. Donc c'est à la fois les salariés et les structures. Et, à la fois les deux collèges entre guillemets qui soient d'accord pour que une majorité de salariés et une majorité de structures pour qu'ils fassent partie du réseau. Et ensuite, ils font partie du réseau comme les anciens, avec tous les avantages que ça procure.
D'accord. Catherine, tu veux compléter cette partie?
Moi, c'est parfait.
C'est parfait. Alors, le temps file, il nous reste quelques maigres minutes. Est-ce que, pour les gens qui s'intéresseraient à ce réseau libre entreprise, bon, en dehors de la charte, donc on trouve sur votre réseau, hein, libre-entreprise.org, il y a aussi la liste de toutes les entreprises. Hein. Est-ce que vous avez des conseils, je sais pas, de lecture, de podcast ou autre pour comprendre ce mode d'organisation qu'on a décrit que partiellement, évidemment, aujourd'hui?
Alors, j'ai Favi, l'entreprise qui croit que l'homme est bon, qui est un livre qui raconte l'histoire d'une fonderie picarde, alors qui n'est pas aussi extrême que nous, peut-être dans notre mode de fonctionnement, mais qui a fait une transformation dans les années 80 sur un fonctionnement. Alors ils sont beaucoup plus nombreux, donc le fonctionnement est adapté à leur structure. Ils ont quand même un peu d'hierarchie, mais voilà, c'est l'histoire de leur transformation par la personne qui l'a menée, qui est très intéressant. Donc ça, pas forcément aussi loin, et ça n'est pas forcément dans le même contexte, mais ça pose déjà beaucoup de bases, je trouve.
D'accord. Alors, on mettra la référence sur le site de la radio et sur le site de l'April. Et de ton côté, Catherine, est-ce que tu as quelque chose à conseiller?
Je peux proposer, c'est un livre qui permet d'ouvrir des réflexions, ça n'est pas à prendre à la lettre, mais il parle aussi des logiciels libres, c'est le livre de l'économie symbiotique, Régénérer la planète, économie et la société, d'Isabelle Delannoy. C'est une ingénieure agronome qui entraîne des réflexions, voilà, sur trouver un juste équilibre entre l'humain, les écosystèmes naturels, les technologies.
D'accord,
comment on peut produire sans épuiser les ressources et en les régénérant.
Bah pareil, tu m'enverras la référence et on rajoutera ça. Et ça me fait penser qu'il y a une question que je n'ai pas posée et qu'on arrive en fin d'émission, parce que tellement elle me paraît logique. Parce que dans libre entreprise, il y a le mot libre, mais dans la charte, c'est quoi la place du logiciel libre? Alors rapidement, c'est le 100% logiciel libre ou c'est autant que possible le logiciel libre?
100%.
100% Jean?
Alors, si on reprend l'objet de la charte, c'est l'activité qui est centrée sur l'utilisation et la promotion des logiciels libres. Donc, je peux dire que nous, on n'est pas à 100%. On a un logiciel de comptabilité qui est privateur et dont on cherche à se débarrasser. Mais je pense qu'on va réussir en 2021, donc on croise les doigts. Mais on est à 95%, il y a toujours des petites verrues dans certains coins, mais globalement, on est des libristes dans toutes nos structures, donc on essaye de faire en sorte qu'on n'ait que du logiciel libre, même si des fois,
c'est ça,
il y a des petites adhérences.
Ouais, on tend au maximum pour, évidemment, hein, c'est pour ça que la job c'est 100%, mais ce serait bien.
Donc c'est priorité au logiciel libre, mais pas forcément 100% en fonction effectivement des petites adhérences qui peuvent exister. Alors on arrive en fin de notre échange. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en termes peut-être d'actualité, de besoins ou peut-être un résumé de notre échange rapidement, Jean?
En actualité, moi je pourrais parler des rencontres régionales du logiciel libre qui ont eu lieu à Nantes. Voilà, il y a un peu moins d'un mois et dont les vidéos vont être c'était en live sur YouTube puisque Peertube n'a pas encore de fonctionnalité de live, donc le replay est disponible, mais ça devrait être disponible sur Peertube quand on aura terminé le montage rapidement.
D'accord.
C'est à suivre.
Je rappelle, en parlant de Peertube, je crois qu'il y a un appel à financement justement pour le rajout du streaming, live dans Peertube. Et de ton côté, Catherine, quelque chose à ajouter ou une actualité, ou un appel?
Je dirais juste qu'on est en réflexion justement en cours pour proposer des soutiens aussi bien financiers par des prêts financiers, mais aussi par de l'aide aux structures sur leur démarrage numérique, comment choisir, quels outils de base choisir, etc. Donc, on est en train de travailler avec l'URSSCOP là-dessus pour aussi bien pouvoir donner un coup de pouce financier qu'un coup de pouce humain aussi.
D'accord.
Et puis sinon, on est toujours content d'accueillir des propositions de nouveaux coopérateurs si des gens veulent nous rejoindre.
D'accord, très bien. Ça me fait penser aussi, tu parles d'aide, que Code Lutin a un mode de financement de projet. Je crois que vous venez de sélectionner, d'annoncer les projets que vous soutenez. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui est reversé à des projets du logiciel libre. C'est bien ça, Paul?
Exactement, Jean.
D'accord. Bon, l'émission
exactement,
est un peu partie.
C'est exactement ça, et notamment Peertube pour le live.
D'accord. Ouais, Peertube, on va rappeler que c'est un système décentralisé de vidéos, donc qui est notamment développé par une personne qui travaille pour Framasoft, donc qui progresse vraiment à vitesse grand V, notamment par des soutiens financiers. Et donc il y en a un en cours et que vous pouvez soutenir, et on mettra les références évidemment sur causecommune.fm. Et je t'ai appelé Paul, c'est ça? Ah, excuse-moi, parce qu'en fait il y a un Paul, je connais un Paul Couteau. En fait tu t'appelles Jean et voilà. Bon, l'émission est un peu compliquée aujourd'hui, hein. On a mal démarré, espérons qu'elle va bien se finir, mais je pense qu'elle va bien se finir. Je vois mes deux invités ici. Donc en tout cas, écoutez, c'était un grand plaisir de vous avoir. Donc je rappelle, donc Jean Couteau de Code Lutin, Catherine Hens de Néréide et surtout du réseau Libre Entreprise, hein, libre-entreprise.org. C'est un grand plaisir de vous avoir. Et peut-être qu'on aura dans une prochaine émission d'autres membres du réseau, parce qu'on a déjà eu Easter Eggs, et on va poursuivre cet échange. J'espère que vous en êtes très contents, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci Fred.
Merci également.
Et à bientôt en tout cas.
Au revoir.
Au revoir.
Nous sommes de retour en direct. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sous le site causecommune.fm. Vous retrouverez les références citées pendant cet échange sous le site de l'April, april.org. Nous allons maintenant faire une pause musicale. J'ai choisi un morceau country pour la troisième pause musicale, un morceau très doux, très apaisant ou très énervant si vous n'aimez pas la country. Nous allons écouter Home One Day par Lucy, Raquel and Me. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
She doesn't care, knowing that it's only
d'écouter Home One Day par Lucy, Raquel and Me, disponible sous licence libre Creative Commons CC by SA 3.0. Vous retrouverez les références sous le site de l'April, april.org.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Voilà, je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative responsable projet à l'April. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune et nous passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Partager est bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, qui nous commentera aujourd'hui le texte Le logiciel des fusées, doit-il être entièrement libre ? Logiciel libre et matériel. C'est une chronique enregistrée le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet. On se retrouve juste après dans une dizaine de minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique Partager est bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Fred.
Alors quel est le sujet de cette chronique ?
Alors le titre, choisi par Richard Stallman, Le logiciel des fusées doit-il être entièrement libre ? Ou plus largement, qu'en est-il du rapport entre le logiciel libre et le matériel dans un dispositif industriel, comme une fusée par exemple ? Alors dans ce texte qui est très récent, il date de 2020, il est traduit par Thérèse Godefroy, revu par TradGNU de l'April, Richard Stallman se réfère à un dispositif qui est très particulier, les navettes spatiales SpaceX. Alors lui-même dit qu'il est très inhabituel, qu'il est exceptionnel, qu'il mène une enquête sur le logiciel des fusées. Et il dit que l'idée lui est venue parce que quelqu'un lui a posé la question. Il voulait savoir s'il y avait du logiciel libre ou pas dans les fusées. Question surprenante, question originale. Et Richard Stallman s'est dit pourquoi ne pas essayer d'y réfléchir, puisque de toute façon, si on s'interroge à ce sujet, peut-être peut-on par là s'interroger sur beaucoup d'autres situations industrielles dans lesquelles on ne sait pas bien si on peut exiger du logiciel libre ou si on doit se plier à une forme, à une architecture qui est imposée. Alors, je dirais que la première précision de Richard Stallman, qui va se livrer à une suite d'alternatives, c'est vraiment une enquête, c'est vraiment une enquête très analytique, très méticuleuse. Il va d'abord se demander si un logiciel est suffisant pour faire décoller une fusée. Non, bien sûr. Mais un logiciel peut y contribuer, peut contribuer au décollage et à la suite. Et c'est vrai que se poser cette question sur la fusée permet de se poser aussi la question sur un thermostat. Même chose, hein. Il y a un dispositif industriel, c'est un appareil. Et là, la première enquête, c'est de deux choses l'une. Soit le logiciel est modifiable, soit le logiciel n'est pas modifiable. Si le logiciel n'est pas modifiable, c'est-à-dire si on appuie sur un bouton, si on n'a aucun accès à lui, on ne va pas se demander quel est le contenu, puisqu'on ne pourra pas de toute façon agir. Si le logiciel est modifiable, il faut bien évidemment se demander en quoi celui qui l'utilise peut, à juste titre, exiger qu'il s'agisse du logiciel libre. Alors aussitôt, une autre enquête, et on va voir qu'elle est liée. Qu'est-ce qui se passe si l'appareil en question siphonne des données personnelles ? Alors là encore, hein, on analyse de deux choses l'une. Soit on peut faire barrage, c'est-à-dire on peut déconnecter ce qui dans l'appareil siphonne les données, soit on ne peut pas, et dans ce cas-là, il est évidemment préférable de recourir à un thermostat dont le logiciel est libre, ce qui garantit bien évidemment qu'il n'y ait pas de vol de cette sorte. Alors à ce moment-là du texte, il y a comme une grande parenthèse, c'est-à-dire que Richard Stallman fait intervenir des éléments qui concernent spécifiquement SpaceX et Tesla, dont on sait qu'un certain Elon Musk est le responsable. Et comme Tesla a fait largement la preuve du caractère malveillant de ses logiciels, bien évidemment, comme c'est le même responsable, ceci augure mal de l'informatique contenue dans les fusées SpaceX. Et ici, il y a rappel que la vigilance est toujours de mise. Pourquoi ? Parce que chaque fois que des données personnelles entrent dans la suspicion de faire l'objet de dérives, de vols, d'appropriations indues, alors il est important de tout faire pour essayer d'éviter cette spoliation et exiger aussi le droit de réparer. Enfin, dernière considération sur SpaceX, comme cette firme reçoit des fonds du gouvernement américain, il serait cohérent que l'informatique libre soit privilégiée par elle. Ce serait la moindre des choses, puisque ce sont des fonds gouvernementaux qui sont mis à sa disposition. Alors là, il y a un deuxième moment dans le texte, et je vais montrer qu'il est très fort, vraiment très très fort, puisque là, Richard Stallman va s'intéresser à l'usage de la fusée. Alors, la plupart du temps, on n'est pas propriétaire d'une fusée. On attend d'une navette spatiale un certain service. Et là, vous avez une comparaison. La fusée peut rendre un service comme une entreprise de déménagement rend un service. Il est très rare qu'on possède soi-même un camion quand on a besoin de déménager. On est le client. Et là, la question est la suivante. Qui doit contrôler le logiciel ? Est-ce que c'est l'entreprise ? Est-ce que c'est le client ? Et là, bon, de même que l'entreprise de déménagement choisit ses camions, Richard Stallman accorde que c'est l'entreprise qui contrôle le logiciel et non pas le client. Donc tout semble très clair, on a l'impression que le texte va s'arrêter. Pas du tout, puisque beaucoup d'entreprises brouillent les pistes. C'est-à-dire qu'elles peuvent, par exemple, prétendre se charger de l'activité informatique privée, intime d'un individu. Et dans ce cas-là, évidemment, le choix du logiciel appartient au client de l'entreprise qui fait de l'informatique pour lui, au nom d'un principe souverain qui est celui de l'autonomie. Il y a d'autres formes de brouillage. C'est-à-dire que certaines entreprises prétendent décider des logiciels avec lesquels elles vont faire de l'informatique pour un client. C'est un stratagème inéquitable. C'est comme si SpaceX se chargeait d'une cargaison et voulait, du même coup, étendre le service à la prise de décision de constituer une autre cargaison totalement au nom du client et à la place du client. Et donc, cette mise en garde qui est que certaines entreprises, si on ne fait pas attention, vont s'arroger des prétentions à décider en ce qui concerne ce qui doit rester la maîtrise du client, ce qui concerne ses décisions intimes, ce qui concerne ses responsabilités d'entrepreneur pour lesquelles il demande un service. Et là, Richard Stallman, qui aime beaucoup les mots, invente un néologisme. Il dit que ça n'est pas dans ce cas-là un service, mais un desservice. C'est-à-dire qu'au lieu d'être servi, on est desservi. On se fait avoir, en quelque sorte. La conclusion pour Richard Stallman, qui manie très volontiers l'humour, consiste en deux énoncés. Bon, effectivement, la plupart du temps, comme on n'aura pas besoin de navette spatiale tout le temps, on va peut-être se contenter d'utiliser l'entreprise SpaceX comme client, bien sûr pour un service non informatique, mais par exemple, quand on a des cargaisons à transporter. Sauf si, et là on sent évidemment l'humour, solution radicale, on préfère acheter la fusée, comme ça on est vraiment tranquille, on est propriétaire au lieu d'être client, on peut avoir éventuellement des clients. Alors pourquoi cette chronique doit-elle insister sur ce qui est très très fort ici, dans la philosophie GNU? Il me semble qu'elle partage une préoccupation avec une école philosophique de l'Antiquité, celle des stoïciens. Les stoïciens essayaient de définir ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, ce sur quoi je vais exiger d'avoir une maîtrise, ce à quoi je peux éventuellement consentir. Bon, ici, on dit quoi? On dit si un logiciel n'est pas modifiable, peu m'importe, je ne vais pas m'interroger à son sujet. Si je suis client, quel domaine d'autonomie préserver? S'il s'agit de confier un travail informatique, qu'est-ce qui est pour moi acceptable? Qu'est-ce qui est pour moi non acceptable? Autrement dit, je pense que tu seras d'accord sur ce point, Fred, le logiciel libre invite à une émancipation, à une prise de conscience de ce qui est à soi, de ce qui relève du pouvoir souverain sur ce qui ne regarde que soi.
Ben écoute, je suis bien d'accord et j'aurais tendance à dire que les choses qui dépendent de nous sont quelque part libres et souveraines. En tout cas, c'était c'est un texte que je ne connaissais pas de Richard et on voit encore son amour effectivement des mots. Comme ce texte parle de fusée, je ne sais pas si tu as vu, mais donc la NASA, qui est l'agence spatiale américaine, qui utilise pas mal de logiciels libres, hein, la NASA qui est financée par des fonds publics, le robot mobile Perseverance qui a atterri sur Mars il y a quelques semaines ou quelques jours, à son bord il y a un petit hélicoptère, qu'ils vont essayer de faire voler pour montrer qu'on peut voler dans l'atmosphère de Mars. Cet hélicoptère est appelé Ingenuity. Et il utilise à la fois un système d'exploitation libre, donc a priori c'est un système GNU Linux, et un programme basé sur un logiciel libre développé par la NASA qui s'appelle F-Prime. Je ne pourrais pas dire exactement ce que fait F-Prime, mais en tout cas voilà, le logiciel libre a atterri sur Mars récemment, grâce notamment au robot mobile Perseverance et à son petit hélicoptère qui s'appelle Ingenuity.
Parfaitement réjouissant l'idée d'avoir du GNU Linux au-dessus de soi, vraiment. Et quelque chose de très plaisant.
Bah écoute, oui, je suis bien d'accord. Merci Véronique. Donc le texte de Richard Stallman que tu as commenté aujourd'hui est intitulé « Le logiciel des fusées doit-il être entièrement libre ?» La version française, comme tu l'as dit, a été traduite par notre équipe TradGNU, donc qui traduit la philosophie GNU. Vous pouvez rejoindre cette équipe de bénévoles en allant sur le site de l'April, april.org, et vous trouverez tous les textes de la philosophie GNU sur le site gnu.org. Donc GNU, c'est GNU. Donc c'était la chronique « Partagé et bon » de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
Très belle fin de journée à toi, Fred.
Nous venons d'écouter la chronique « Partagé et bon » de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, sur le thème « Le logiciel des fusées doit-il être entièrement libre ?» Logiciel libre et matériel, un texte dont vous retrouverez comme d'habitude la référence sous la page consacrée à l'émission sur april.org et causecommune.fm. C'était une chronique enregistrée le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet, qui d'ailleurs dans cette chronique citait le drone Ingenuity sous GNU Linux. Eh bien, on est plein dans l'actu parce que, toujours mon collègue Fred, me fait remarquer que le drone Ingenuity a fait hier son premier vol sur Mars. Donc, on ne pouvait pas être plus calé que ça. Donc, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Passons maintenant aux actualités à venir pour l'April et le monde du libre. Quoi de libre? Une nouvelle soirée de conversation autour du libre, organisée par l'association Parinux, aura lieu ce jeudi 22 avril en ligne. Le thème sera Educosme, une plateforme web dont l'objectif est regrouper dans un lieu les divers usages pédagogiques d'OpenStreetMap et de les classer pour en faciliter la découverte. Vous trouverez le lien sur la page consacrée à l'émission sur april.org. Retrouvez tous les autres événements autour du Libre sur l'agendadulibre.org. Auditeurs et auditrices de Libre à vous, vous avez peut-être envie de nous poser des questions, nous faire de remarques. Nous vous proposons donc un nouveau rendez-vous hebdomadaire chaque mardi à 17h en visioconférence, juste après la diffusion de l'émission en direct. Donc, rendez-vous dans quelques instants sur le site visio.libreavoue.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Jean-Christophe Becquet, Frédéric Couchet, Jean Couteau, Catherine Haynes, Véronique Bonnet, aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel-Giraudon, Linguain, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la Radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 27 avril à 15h30. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et on se retrouve en direct mardi 27 avril. D'ici là, portez-vous bien.